Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Monsieur David Millet. Bonjour.
Bonjour.
David Millet, vous êtes candidat aux élections professionnelles à la Chambre d'agriculture de la Drôme. Donc, vous êtes ici pour nous parler un peu de vos engagements et peut-être aussi du bilan de ces dernières années et puis parler aussi de l'actualité qui est plutôt dense aussi avec ces difficultés. Et avant tout, on peut peut-être annoncer votre venue prochaine qui aura lieu donc vendredi.
Oui, vendredi à Salette, donc il y a un événement qu'on a intitulé Toute paysanne, et c'est un événement organisé par des collègues, donc femmes qui sont paysannes, et pour mettre en avant la place des femmes dans l'agriculture. Faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui sont installées comme paysannes, mais souvent qui sont un peu invisibilisées. D'ailleurs, il y a une BD intéressante qui avait été qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle Qui est le patron, et enfin voilà, qui reprend le fait que souvent les gens s'attendent à voir des hommes dans les fermes, à la tête des fermes, alors qu'il y a beaucoup de fermes, ce sont les femmes qui les dirigent.
C'est peut-être un peu moins vrai dans le Diois.
C'est pas faux. Ouais, c'est assez vrai. Et puis la tendance actuelle est à ce qui est, je crois, de l'ordre de 60% de femmes qui s'installent en agriculture. La tendance est plutôt à mettre les femmes en avant.
Alors, David Millet, vous-même êtes agriculteur ?
Oui, je suis paysan à Minglon. Donc, je suis installé là depuis 2 ans. Avant, j'avais une activité, on va dire, plus itinérante parce que j'avais pas de terre et je travaillais avec mes chevaux en traction animale, donc dans la vigne, plutôt dans la vallée du Rhône. Et là, depuis 2 ans, je suis donc à Minglon. J'ai repris une ferme avec des plantes aromatiques, des céréales et un peu de légumes en plein champ.
Alors, cela nécessite un investissement pour s'installer. Est-ce que ça a été non sans mal ?
Alors moi, c'est un peu particulier parce que comme j'avais plus de 40 ans au moment de m'installer, j'ai pas pu bénéficier de ce qu'on appelle la DJA, la dotation jeune agriculteur, c'est une sorte de subvention à l'installation et qui nécessite tout un accompagnement un peu formel, administratif. Donc moi, j'avais déjà un parcours professionnel avec d'autres expériences et j'avais un peu d'économie et je les ai mises en m'installant. Mais j'ai en même temps fait un choix de m'installer de manière assez sobre, on va dire, avec peu d'investissement. Puisque j'ai repris des terres et du matériel qui était assez ancien, donc qui m'a pas demandé un gros investissement. Et puis j'avais, comme je vous disais, j'avais déjà une activité puisque je travaillais avec mes chevaux, donc j'avais déjà des chevaux, du matériel, des outils, donc ça m'a qui m'a permis de démarrer progressivement.
À l'heure actuelle, ces chevaux, vous les possédez encore et vous en avez quelle utilité?
Oui, donc en fait là, je travaille. On est, si vous voulez, sur la ferme. Donc je suis arrivé seul, mais avec en installation formelle, mais avec un collègue qui m'a donné un coup de main, on va dire, la première année. Donc on avait 2 chevaux et on les a toujours et un âne d'ailleurs aussi qui accompagne les 2 chevaux. Donc ce sont des chevaux de trait, des chevaux comtois. Et donc on est arrivé avec nos 2 chevaux. Donc aujourd'hui, mon collègue va démarrer lui un parcours d'installation pour s'installer en même temps que moi sur cette ferme. Et donc ces 2 chevaux nous servent toujours à travailler. Donc dans les plantes aromatiques, surtout de la mélisse, on fait l'entretien du sol, le binage. Ensuite, toute la partie légumes se fait à cheval, la plantation des pommes de terre par exemple, mais aussi le binage, le butage des pommes de terre, la récolte se fait avec les chevaux. Et puis également toute la partie la fenaison, donc pour le foin, une partie se fait à cheval, puisque en fait c'est aussi ce qui va nous permettre de nourrir les chevaux. Voilà, donc ils se nourrissent, si vous voulez, tout seuls en partie.
La Confédération paysanne, c'est un syndicat ou des syndicats pour une agriculture paysanne et de défense de ses travailleurs. Alors, à l'heure actuelle, on peut parler aussi de ces travailleurs de la paysannerie. Comment se passe cette période pour
Pour nous, eh ben écoutez, c'est une période assez intense, une période, je ne sais pas si on peut dire, c'est une crise, en tout cas c'est un cri d'alerte de tous les paysans qui ne vivent plus de leur métier. Les fermes disparaissent, les paysans crèvent, si vous voulez, pour parler un petit peu trivialement. Mais c'est une réalité, de toute façon, ce qui est le plus dur à accepter, enfin, c'est que tout ça a été prémédité, si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose d'inéluctable qui nous tombe dessus comme ça. La vérité, c'est que la disparition des paysans, si vous voulez, ça a été planifié, c'est des choix politiques qui datent des années 60. Où à l'époque on avait plusieurs millions de paysans. Dans les années 90, on en avait encore 1 million. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que, à peu près 400 000 paysans. On a perdu 20% de paysans en 10 ans. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on dénonce parce que nous, notre projet, il est à l'inverse. Il est à l'inverse, c'est de dire on voudrait qu'on soit 1 million de paysans à l'horizon 2050, c'est-à-dire en gros en réinstaller à peu près 500 000. Parce que pour nous, le monde, les paysans doivent, enfin, des campagnes vivantes, ça se traduit par des paysans nombreux. Des paysans nombreux, c'est des personnes qui vivent du coup en zone rurale, qui vivent de leur métier, qui du coup évitent aussi d'avoir des villes trop, trop densément peuplées et des campagnes où on ne ferme pas d'école, où les commerces sont dynamiques et où des paysans heureux peuvent nourrir les territoires sur lesquels ils habitent et toute la population qui vit sur ces territoires.
Par rapport à cette perspective de recréer une paysannerie plus conséquente, comment s'établissent cette opération ou du moins cette stratégie au niveau de la Confédération paysanne face à ce bloc qu'est le système actuel, et notamment l'incontournable système bancaire également.
Oui, en fait, quand je dis que c'est prémédité, c'est effectivement, donc il y a eu des lois qui ont été depuis les années 60, qui ont été passées et des orientations qui ont été prises avec des choix politiques. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important que la situation actuelle, c'est que tout le monde se dise que c'est parce qu'il y a eu des choix de fait et notamment des choix qui ont été décidés conjointement avec des syndicats majoritaires, donc la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui, pour nous, ont dans une démarche de co-gestion avec l'État, décidé que la disparition des paysans n'était pas un problème. L'important, c'était de produire suffisamment pour nourrir le monde, d'ailleurs. Nous, aujourd'hui, on pense que nourrir le monde, c'est une lubie un peu égocentrique, un petit peu même égotique. Si vous voulez, de croire qu'on va nourrir le monde, c'est un cache-misère, en fait, pour voir qu'on affame plutôt le monde, parce qu'en voulant exporter à tout prix, alors qu'on n'est même pas capable de nourrir notre propre population, c'est courir un peu à notre perte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 50% de l'alimentation, près de 50% de l'alimentation est importée. Donc nous, on veut se poser la question de voilà, comment nourrir les territoires et les gens, les gens qui y habitent. Et donc pour nous, la priorité à venir, et notamment pour ces élections, la priorité numéro un de la Chambre d'agriculture, à notre sens, devrait être l'installation et la transmission des fermes. Parce que comme je vous disais, on a perdu 20% de paysans, mais à peu près autant en nombre de fermes. C'est parce que les fermes, on n'arrive pas à les transmettre. Souvent parce qu'elles ont été surcapitalisées, c'est-à-dire qu'on a voulu, on a poussé à l'investissement, via notamment le système bancaire aussi, mais via les aides publiques à l'investissement pour surcapitaliser les fermes qui font qu'aujourd'hui, on a des fermes qui coûtent plusieurs millions et qui sont intransmissibles. À part, une transmission intrafamiliale, mais ce qui est parfois... pas forcément facile, qui sont des montages financiers qui sont difficilement transmissibles et surtout qui correspondent plus à la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a près de 60% des gens qui veulent s'installer en agriculture, qui sont intéressés par ce métier, qui veulent y aller, qui sont des personnes, ce qu'on dit, non issues du milieu agricole, c'est-à-dire qui ne peuvent pas bénéficier d'un héritage. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc nous, voilà, la priorité, c'est l'installation. Des personnes voulant s'installer, d'ailleurs parfois qui peuvent avoir plus de 40 ans, ça a été mon cas, et ça existe beaucoup, la reconversion professionnelle, et donc ça demande d'élargir un peu et de de comment dire, donner un petit peu de flexibilité à tous ces dispositifs. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la DJA, dotation jeune agriculteur. Aujourd'hui, si vous avez plus de 40 ans, de manière très précise, strict, vous ne pouvez pas y avoir accès. Nous, par exemple, la Conf porte l'idée qu'on puisse être jeune, et, enfin en tout cas pour s'installer au-delà de 40 ans, peut-être 45, peut-être 5, enfin tout ça, voilà. Mais ça devrait être la priorité de la Chambre, en tout cas, pour nous.
Depuis ce début d'année, vous organisez des rencontres avec la population, notamment celle du jeudi 9 janvier, où il y avait une conférence débat avec un thème sur les accords de libre-échange ou souveraineté alimentaire. Il faut choisir. Donc ça, c'était avec Maxime Combes. Vous nous présenterez rapidement cette personne. Alors, il y a donc cette conférence débat, et qu'est-ce que ça a permis de mettre à jour, et quelles sont les inquiétudes actuelles également?
Déjà, ce qui a été intéressant de faire cette rencontre, donc, qui a eu lieu dans le Nord-Drôme, avec Maxime Combes, qui est un économiste assez connu, on va dire, enfin au niveau national, et qui participe à une plateforme de plusieurs organisations qui défend, enfin, qui s'oppose en tout cas à la signature du Mercosur. Et donc le Mercosur, c'est un accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine. Et ce sur quoi il nous a alerté, c'est le fait que là, on est sur un accord de libre-échange qui est très particulier, enfin, et l'actualité est très particulière, et la situation un petit peu politique et le positionnement autour de cet accord est très particulier. On est dans un moment assez charnière. C'est-à-dire que des accords de libre-échange, il y en a qui sont signés depuis une quarantaine d'années contre lesquels la Confédération paysanne s'est toujours opposée. On est le seul syndicat qui s'est toujours opposé, et de manière intègre et systématique, aux accords de libre-échange. Alors, on est opposé au libre-échange, mais on n'est pas du tout opposé au commerce, à commercer, à échanger. Les paysans ont toujours échangé. Ça permet notamment, voilà, d'équilibrer entre des zones où il peut y avoir des crises de production. Mais l'échange, c'est quelque chose de normal. Et d'ailleurs, si on prend le vin, un secteur important pour l'agriculture, d'exportation, le vin... les spiritueux, les deux tiers, on va dire, en tout cas, les plus gros marchés sont les États-Unis et la Chine, vous voyez. Et donc, notamment, ici, on est dans le Diwa, la clairette, c'est une production importante. Et ben, ces deux, le vin s'exporte, voilà, comme je disais, en majorité vers les États-Unis et la Chine. Ce sont des pays avec lesquels on n'a pas du tout d'accord de libre-échange, et il n'est pas du tout prévu d'en avoir. Et donc, c'est pour dire que s'opposer au libre-échange ne veut pas dire s'opposer à l'export. Par contre, le libre-échange, c'est quelque chose qui met en compétition direct, puisque l'idée, c'est d'enlever les droits de douane, de mettre des droits de douane nuls sur tous les produits, en tout cas sur la partie agricole. Et donc, nous, on s'oppose à ça. Et le Mercosur, ce qui est particulier, c'est qu'on est à un moment où il s'avère que, tous les syndicats, il y a un consensus politique, et au niveau syndical aussi, tout le monde s'oppose à ce Mercosur. Alors nous, on le sait pourquoi, puisqu'on y est opposé, et on en est plutôt content, finalement, que tout le monde s'y oppose. Nous, on s'étonne un peu que tout le monde se mette, entre guillemets, à se rallier à nos idées. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, on est dans un moment charnière, puisque, comme ceux qui ont suivi un peu, vous avez vu que l'Union européenne a finalisé le document, le texte, mais il n'est pas encore ratifié. Et là, il est en train de se décider au niveau européen quels pays vont accepter de le ratifier, puisqu'en fait, un texte, voilà, pour qu'il soit mis en œuvre, il faut qu'il soit ratifié. Et donc là, on pousse... Pardon.
Je vous interromps. Est-ce qu'on peut connaître le taux de pays de l'Europe, à quelles conditions un minimum de signatures peut être autorisé?
Ouais. Alors, il faut une minorité. En fait, pour qu'un texte ne passe pas, c'est très complexe. Il nous a parlé de tout ça. C'est-à-dire que la Commission européenne peut un peu jouer. Soit elle fait voter ça en Conseil, soit et il y a différentes manières de le faire voter. Mais en tout cas, il peut y avoir une manière de le bloquer. C'est si c'est une majorité. Alors, il faut soit une majorité qualifiée. Je crois que c'est du coup, il faut un nombre de pays qui représente une certaine population. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France peut être menée un combat bah, diplomatique pour qu'il y ait une minorité de blocage. Et l'important, c'est de voir quels sont les pays aujourd'hui qui s'opposent au Mercosur. Parce que l'idée, c'est d'avoir un nombre de pays suffisant voilà, pour pouvoir faire blocage. Et aujourd'hui, par exemple, là, à l'heure où je vous parle, c'est ce que nous a dit Maxime Combes, il nous a dit donc il y a la Pologne qui s'y oppose, les Pays-Bas qui s'y opposent, l'Italie qui se positionne pas encore trop, Et ce qui est marrant, enfin ce qui nous a bien précisé, c'est que il nous a montré une carte avec les pays qui s'opposaient. Et en fait, il disait il y a un mois, c'était pas la même chose. Donc on est dans une dynamique où il y a peut-être des pays qui vont tourner Kazakh. Par exemple, l'Espagne aujourd'hui est favorable au Mercosur pour des questions historiques de relations avec les pays d'Amérique latine et de langue. Donc il pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus. Mais en fait, il s'avère que là, la semaine dernière, on voyait il y avait des manifestations d'agriculteurs en Espagne pour s'opposer au Mercosur. Donc on est sur un moment charnière où peut-être que ce sera nous, lui, ce qu'il nous disait, c'est peut-être que ce sera le premier accord qui ne sera pas signé, contre lequel il y aura une opposition massive de l'Union européenne, alors que l'Union européenne a signé des accords de libre-échange, même s'ils ne sont pas tous ratifiés, mais avec le CETA, par exemple, avec le Canada ou avec la Nouvelle-Zélande. Donc là, on est à un moment où peut-être on peut réussir à faire basculer ce rapport de force et cette opposition au niveau de l'Europe contre les accords de libre-échange.
Il y a l'aspect économique, certainement, le mode de production aussi. Dans ce contexte de Mercosur qui fragilise peut-être l'agriculture européenne face à ceux d'Amérique latine. Donc avec moins de contraintes sanitaires également, ça c'est aussi une réaction du monde agricole avec toutes les contraintes qu'elle applique.
Oui, oui.
Nous,
on voit bien, en fait, certains s'opposent aux normes qu'on a avec trop de normes, des normes sanitaires. Et nous, on pense qu'au contraire, ces normes sont là pour nous protéger et pour garantir un niveau minimum de qualité pour nos produits. C'est les normes, par exemple, qui décident d'une qualité, qu'on ne puisse pas vendre des produits en dessous d'une certaine qualité sanitaire, par exemple. Et ça choque personne. Et c'est ce qui nous protège pour que n'importe qui puisse pas vendre de la viande avariée ou de la viande qui est mal étiquetée. D'ailleurs, c'est ce qui a été des fois le cas et ça a été dénoncé. Mais... aujourd'hui, effectivement, la crainte avec les pays d'Amérique latine, c'est que les normes ne soient pas du tout les mêmes. Et c'est le cas, puisque les normes au niveau des produits phytosanitaires autorisés ne sont pas les mêmes, mais aussi les normes sociales. On sait que le SMIC, si vous voulez, là-bas, je crois que c'est de l'ordre de 1 euro par jour, peut-être. Et donc, c'est des conditions qui sont complètement... Donc on ne pourra jamais rentrer en compétition. Enfin, je veux dire, on ne pourra jamais... Ce sera toujours nivelé par le bas. Et on aura beau faire tous les efforts qu'on veut, de toute façon, voilà, avec des conditions, comme je viens de le mentionner, on sera toujours en défaut, si vous voulez. Et en plus de ça, ces accords de libre-échange, ils ne serviront qu'à des... Si vous voulez, pour pouvoir exporter, il faut faire partie de... En tout cas, dans les pays d'Amérique latine, ce sera forcément des grosses firmes qui peuvent exporter et des grosses structures. Et c'est aussi, même pour nous, on dénonce le fait que souvent, les accords de libre-échange, on dit « Ah oui, ils bénéficient quand même, ils permettent d'exporter du roquefort ou d'autres produits laitiers, par exemple, au Canada. » Mais ça, c'est un paravent qu'on nous met, mais en fait, ça bénéficie pas aux producteurs, ça ne bénéficie pas aux paysans, ça bénéficie aux groupes alimentaires agroalimentaires qui, eux, vont exporter leurs produits. L'exemple, c'est que vous voyez, le CETA, effectivement, a permis d'exporter plus de produits laitiers vers le Canada. Et ben, en parallèle, là, Lactalis, donc le numéro un mondial des produits laitiers, vient de décider qu'il réduisait sa collecte de lait bio dans l'ouest de la France. Parce qu'effectivement, pour lui, il préfère avoir accès à des grandes fermes de plusieurs centaines de vaches plutôt que de devoir aller collecter le lait en faisant 30 km entre chaque ferme.
Face à ce système, est-ce que la Confédération paysanne agit aussi dans ce sens pour contrer un peu cette suprématie, en quelque sorte, de cette production de lait? Est-ce que vous vous organisez au niveau de la Confédération paysanne pour justement asseoir un peu cette économie pour vous?
Ben oui, tout à fait. La Confédération paysanne, on milite beaucoup et on promeut les circuits locaux, les circuits courts de distribution pour que les paysans s'approprient la chaîne de distribution de leurs produits et donc que la valeur ajoutée sur leur production puisse leur revenir et qu'ils puissent être moteurs de cette commercialisation. Mais il y a aussi beaucoup de paysans qui décident de s'organiser en coopérative. Moi, par exemple, je fais partie de la coopérative des plantes aromatiques du Diwa. Donc, c'est des produits secs qu'on a besoin de transformer et pour lesquels, effectivement, on a besoin d'outils de transformation. Le problème, nous, ce qu'on dénonce, c'est la manière dont des groupes agroalimentaires sont devenus des multinationales et donc certaines coopératives sont devenues des cathédrales dans lesquelles les paysans n'ont plus leur voix au chapitre. Ils ne peuvent plus décider. Mais par contre, nous, on défend l'idée de coopératives où les paysans puissent être décisionnaires et que l'activité de ces coopératives leur soit directement bénéfice.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5,
101.7,
FM.
Face à ce monde agricole, il y a quand même une personne qu'on doit aussi considérer, c'est le consommateur. Quelles sont ses exigences? Est-ce que vous-même, la Confédération Paysanne, tenez à peut-être à y répondre?
Ben oui, tout à fait. En fait, nous, on pense surtout que le consommateur est un citoyen et que le consommateur est un citoyen et lui aussi, en tant que citoyen, doit agir et revendiquer ses droits et ses besoins et de son côté, se battre aussi pour des revenus satisfaisants, pour que les conditions de travail lui permettent d'avoir un revenu décent, pour qu'il puisse consommer et acheter des produits locaux de qualité. On pense que, parce que tout ça, c'est un cercle vertueux aussi, c'est-à-dire que si les paysans sont rémunérés à des prix satisfaisants, qui leur permettent de vivre, derrière, ils font vivre une économie locale, donc c'est-à-dire c'est des emplois localement, et donc c'est des personnes qui derrière ont un revenu juste qui leur permet d'acheter des produits de qualité.
Effectivement, par rapport à ce coût de cette production bio qui se ressent aussi pour le consommateur, et peut-être depuis quelques années, on ressent un recul de cette commercialisation du bio. Est-ce que pour vous, quelles sont les articulations à trouver pour pouvoir remédier à cette augmentation? Est-ce qu'il est possible de baisser le prix de production et comment?
Comme j'évoquais souvent, les circuits courts, c'est une manière, donc ça veut dire d'acheter sur les marchés ou dans les magasins de producteurs, c'est une manière d'acheter à moins cher puisque vous évitez de passer par des intermédiaires qui peuvent être les grandes surfaces qui, c'est sûr, offrent un service d'être ouvert 24 heures sur 24, d'offrir tous les produits rassemblés dans un même endroit. Mais en utilisant ces circuits-là, vous pouvez avoir accès à des produits à des coûts moindres qui puisse être accessible à tous les budgets. Après, c'est vrai qu'aussi, il y a nécessité que chaque citoyen, chaque consommateur prenne conscience qu'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est de l'ordre de 7% d'un panier de courses qui revient aux producteurs, aux paysans. Et à l'échelle d'un, ça c'est d'un panier de courses, mais on va dire à l'échelle d'un revenu, du revenu des consommateurs, il y a une part de plus en plus faible. Je crois qu'aujourd'hui, c'est de l'aide de 13% qui va à l'alimentation. En tout cas, ça a beaucoup baissé. Et ça, c'est important que chacun en prenne conscience. C'est qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle des dépenses non réductibles, mais qui viennent s'ajouter. Et c'est important que chacun prenne conscience que l'alimentation n'est pas quelque chose qui devrait venir en dernier recours qu'on y attribue des dépenses en fonction de ce qui nous reste à la fin du mois, mais que ce soit un choix aussi de prioriser ces achats-là pour des achats de qualité et des produits locaux qui fassent vivre des paysans nombreux.
Alors, il y avait ce deuxième rendez-vous le 13 janvier, c'était à la ferme Saint-Ferréol,
chez moi.
Et donc, la thématique était celle de l'installation, transmission, et vous aviez des propositions. Alors, quelles sont-elles ?
Oui, tout à fait. Donc, ça s'est passé lundi. On a eu de la chance, il y avait un grand soleil, même s'il faisait très froid. Donc, on était une 40-45 à peu près personnes. Et... l'idée, ça a été de faire des témoignages sur des personnes qui ont transmis leur ferme, et souvent des transmissions qui ont permis à plusieurs personnes de s'installer. À l'inverse d'une tendance qui est beaucoup à ce que les fermes s'agrandissent. Nous, on pousse pour que, voilà, on veut des paysans nombreux. Alors, comme j'évoquais, 1 million de paysans à l'horizon 2050. Donc, il y a eu des témoignages, notamment Olivier Bourgeois avec sa compagne, a repris une ferme à Chamarges, donc qui sont maraîchers aujourd'hui, qui approvisionnent notamment la Carline. Également Tony Jean, qui a des céréales, de la vigne et des plantes aromatiques, et qui est en train de céder, donc qui est basé à Die, et qui est en train de transmettre plutôt une partie de sa ferme à une jeune Céline, donc qui, elle, pareil, a eu un parcours professionnel avec une reconversion, et aujourd'hui, elle souhaite s'installer avec des plantes aromatiques et des lamas également. Et puis, il y avait l'exemple de Rémi Léger, de la ferme des Volonteux à Beaumont-les-Valences, qui est une ferme qui, lui, il est issu de famille paysanne, si vous voulez, et il a repris la ferme de ses parents d'une trentaine d'hectares, et aujourd'hui, ils sont plus de 22 personnes travaillant à temps plein sur cette ferme, très diversifiée. Et puis, la ferme où je suis installé, où effectivement, on s'est installé à deux, donc moi, dont je vous ai parlé, avec les activités dont je vous ai parlé, et puis Milena, qui a des poules pondeuses, donc d'ailleurs, qu'elle vend sur le marché à Die. Et puis également Ivan, mon collègue dont je vous ai parlé, qui va venir nous rejoindre. Et donc, ce qu'on a mis en avant, c'est le fait que nous, on trouve qu'il y a trop que la transmission et l'installation n'est pas aujourd'hui une priorité de la Chambre d'agriculture. Nous, on pense que ça devrait l'être. Pour atteindre 500 000 paysans d'ici 2050, il faudrait, au niveau de la Drôme, qu'il y en ait, si vous voulez, 500 par an, des nouvelles installations. Or, aujourd'hui, on en est à 70 installations par an. Avec la DGA. Nous, on pense que c'est insuffisant et on pense que ça devrait être une vraie dynamique. Et pour être concret, au niveau de la Chambre d'agriculture, aujourd'hui, l'installation, la transmission, ça fait partie d'un pôle qui est l'accompagnement des entreprises, à la stratégie des entreprises. Et l'équipe qui s'occupe de ça, la Chambre d'agriculture, elle s'occupe de l'installation et de la transmission en même temps qu'elle s'occupe de conseiller les agriculteurs sur la PAC, sur du conseil économique, sur l'accompagnement, enfin la gestion numérique des parcelles. Nous, à la Chambre d'agriculture, si la Confédération paysanne arrivait à la tête de la Chambre d'agriculture, on voudrait que l'installation et la transmission soient une priorité numéro un, avec une équipe dédiée et qui y mette beaucoup d'énergie et qui s'appuie sur un réseau local, notamment l'ADAR fait un travail très important sur l'installation, et on voudrait que la Chambre d'agriculture s'appuie sur tout ce réseau de structures qui font déjà un travail de terrain.
J'ai cru comprendre que la FNSEA aussi présente en très grande majorité à la Chambre d'agriculture. C'est aussi de ses compétences de soutenir administrativement ces syndiqués et aussi de les diriger. Est-ce que cela convient, semble-t-il, aux agriculteurs, mais est-ce que de votre côté vous proposez aussi des services pour mieux peut-être inspirer, guider les paysans?
Oui, tout à fait. Nous, on pense que la Chambre d'agriculture, aujourd'hui, on pense que la manière dont elle est gérée n'est pas... si vous voulez, il manque de pluralisme. C'est lié au mode de scrutin, mais pas seulement. On pense que tous les paysans n'ont pas leur place, n'ont pas leur voix. Pour vous donner un exemple, voilà, aujourd'hui, la Confédération paysanne, aux dernières élections, représentait 25% des voix, mais on n'a eu que 2 élus sur 18, donc c'est-à-dire une infime minorité, alors qu'on présente un paysan sur 4. Et on pense qu'on n'est pas entendu à notre juste... mesure, et notamment nous, on demande qu'il y ait beaucoup plus de pluralisme et que chaque pays, chaque syndicat soit entendu. Par exemple, pour vous donner un exemple, un fait concret, enfin une proposition concrète, c'est que on voudrait qu'au bureau de la Chambre d'agriculture, qui est l'organe plus exécutif, plus décisionnaire, aujourd'hui il n'y a que des personnes de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Si la Confédération paysanne était majoritaire, nous on voudrait qu'il y ait au moins un élu de l'opposition pour qu'il puisse avoir du débat, de la transparence et de l'inclusion de toutes les tendances syndicales. On revendique pas, on n'a pas une vision monolithique des choses, on ne détient pas la vérité, on ne veut pas imposer à tout le monde notre modèle. On pense que c'est le plus pertinent, le plus viable et celui qui rendra les paysans heureux de leur travail. Mais on veut qu'il y ait du pluralisme, on veut que tout le monde ait sa voix et qu'on n'aille pas dans un sens de manière hégémonique. Et donc, pour répondre précisément à votre question, oui, on fait déjà des choses sur le terrain. Je vous ai parlé de l'ADEAR, qui est une association qui accompagne aujourd'hui des jeunes dans leur installation. Et d'ailleurs, avec un budget bien moindre que ce que la Chambre dispose, elle accompagne déjà autant, pratiquement à peu près 80. Elle accompagne à peu près l'ADEAR, à peu près 80 jeunes dans leur installation chaque année. Donc ça veut dire, c'est des moyens qui sont obtenus via des financements régionaux ou des fondations. Donc avec nos petits moyens, on arrive à accompagner presque autant de jeunes que la Chambre d'agriculture. Donc on pense que voilà, avec plus de moyens, on pourrait faire largement un travail, comme je vous disais, pour accompagner plus de 500 installations par an dans la Drôme.
Ce vendredi à venir, le 17 janvier, donc, il y aura à Salette, la ferme des Dames, cette ferme ouverte avec un temps convivial à la suite. Et le thème de cette instance sera les droits des paysannes, avec des témoignages et des échanges. Quelle est justement la place de la femme à l'heure actuelle? Je crois que vous disiez que c'était de l'ordre de 60%.
Oui, il y a énormément de femmes qui veulent s'installer en agriculture avec des projets... souvent assez innovants, adaptés au territoire, adaptés aux besoins des consommateurs, des citoyens, qui amène aussi une vitalité donc dans les fermes. Et donc là, l'idée de ces rencontres, c'est un, comment dire, de mettre en avant la place des femmes et aussi toute cette dynamique qui existe. Il y a là-dessus, je vous parlais d'organisations qui sont de terrain. Il y a notamment il y a une association qui s'appelle le CIVAM qui fait un travail remarquable. Notamment en organisant de ferme en ferme chaque année. Mais ils ont également un réseau de femmes paysannes. Ils mettent en avant la manière dont les femmes jouent un rôle clé dans les fermes. Elles ont toujours joué. Souvent, avant, elles étaient aux côtés de leur mari. C'était la place qu'on leur dévoluait. Mais aujourd'hui, elles prennent une place beaucoup plus prépondérante. Et comme, par exemple, moi, mes voisines, c'est un GAEC de 3 femmes qui gèrent une soixantaine de brebis et qui transforme en fromage. Et voilà, il y a plein d'exemples. Et l'idée de cette journée, c'est vraiment de mettre ça en avant et de mettre en avant tout ce travail de mise en réseau, de dynamisme que le CIVAM mène notamment au quotidien.
Et pour finir cette période électorale, mardi 21 janvier, donc ce sera à Barbière, à la ferme U-Cocotte, et là ce sera quel avenir pour l'élevage drômois. On parle de quel type d'élevage, et on peut peut-être faire aussi un petit détour aussi sur cette péripétie d'épidémie au niveau des élevages ovins.
Oui, tout à fait. Avec la FCO, qui a été une crise, une catastrophe pour tous les élevages et de petits ruminants, surtout moutons et puis chèvres qui ont été touchés un petit peu et qui a encore des conséquences, puisque souvent il y a eu des mâles qui ont été stériles, qui n'ont pas pu et des mères qui ont avorté. Donc tous les éleveurs en pâtissent encore au quotidien. Nous, on pense que, en fait, déjà toutes ces maladies, toutes ces épidémies, elles viennent avant tout d'un élevage industriel où les animaux sont fermés, enfermés, et qui favorisent, si vous voulez, l'émergence de maladies qui après s'étendent sur le territoire et qui viennent toucher les éleveurs. Et les empêche souvent de pouvoir mener un élevage de plein air, sous ce qu'on a vu sur la grippe aviaire, où du coup il y a des mesures de claustration qui sont imposées à tout le monde. Et on pense que ça, c'est pas du tout. Déjà que ces mesures viennent s'imposer à tout le monde, un peu comme une chape de plomb. Et nous, on défend l'idée que non, il existe des élevages qui sont résilients par rapport à ça, et donc l'élevage plein air, et qu'on doit pas imposer des. Si vous voulez, c'est comme si on utilisait une masse pour aller enfoncer un petit clou, quoi. Enfin, ça, c'est complètement complètement disproportionné. Et par contre, on pense que cet élevage industriel qui aussi découpe, en petits morceaux le parcours d'un animal dans sa croissance, puisque vous avez les naisseurs, les engraisseurs, et comme ça, nous on pense que justement un élevage c'est un tout qui devrait d'ailleurs on promeut aussi la polyculture élevage, c'est-à-dire la complémentarité entre l'élevage et les productions végétales. Mais et donc là, en tout cas, cette journée de mardi 21, c'est pour mettre en avant cet élevage paysan, cet élevage de plein air, et qui est une réponse, on pense, à toutes ces périodes, ces problèmes sanitaires qui sont passés ces dernières années, quoi.
Alors, pour préciser aussi, ce rendez-vous, il sera traité des normes, du sanitaire, de la prédation, de l'industrialisation. Et ça sera avec Sylvie Collat, qui est secrétaire nationale de la Confédération paysanne et qui est éleveuse dans le Gers.
Tout à fait.
Donc, elle est en même temps l'exemple de ce qu'elle défend.
Voilà, tout à fait. Donc, Sylvie Collat, elle est secrétaire nationale, c'est-à-dire qu'on a un secrétariat national d'à peu près 7 membres. Et donc, l'idée, c'est comme on est en campagne, qu'elle vienne rencontrer les éleveurs. Donc, elle est elle-même éleveuse de volailles dans le Gers. Et elle vient témoigner un petit peu de ces combats qui sont menés au niveau national et aussi ce que propose la Confédération paysanne à ce sujet.
On approche de la fin. La période électorale se déroule jusqu'à quelle date ?
Alors, les élections chambres, la campagne, c'est jusqu'au 29, si vous voulez, minuit. C'est-à-dire, voilà. Et ensuite, il y a une journée du 30 où il ne doit pas y avoir de campagne, pas de communication. Et le 31, c'est le dernier jour pour aller voter. Et donc, pour aller voter, c'est simple, en fait. Et d'ailleurs, moi, j'encourage tous les paysans et tous les paysannes à aller voter. J'ai envie de dire voter pour qui vous voulez, mais allez voter, parce qu'il y a une abstention de plus de 55%. Donc, il y a très peu de paysans qui vont voter. Et pourtant, aller voter pour les élections aux chambres d'agriculture, c'est quelque chose de très important, puisque vous allez c'est l'orientation de l'agriculture à venir que vous décidez. Ça peut sembler anodin, mais en fait les élections aux chambres d'agriculture, c'est pas seulement aller élire aller choisir une liste et donc pour des élus à la chambre d'agriculture de la Drôme, mais les pourcentages, enfin les voix qui vont être obtenues par chaque syndicat, si vous voulez, sont agglomérées au niveau national et donnent un pourcentage qui donne la représentativité de chaque syndicat. Et derrière ça, il y a ce qu'on appelle l'audience, en termes un petit peu en jargon un peu administratif, c'est l'audience dont va bénéficier chaque syndicat auprès des ministres, du ministère de l'Agriculture. Et donc plus la Confédération paysanne aura un score élevé, plus le ministre et donc l'État tiendra compte des propositions. C'est important parce que c'est un scrutin qui a une portée nationale et pas seulement locale. Et donc pour aller voter, chaque agriculteur va recevoir une enveloppe de la préfecture. Donc normalement, c'est à partir du 15, entre le 15 et le 20, va recevoir une enveloppe avec toutes les informations pour voter. Soit vous pouvez voter par Internet. Et donc dans cette enveloppe, vous aurez les codes et le site, le lien pour pouvoir aller voter. Soit c'est possible de le faire par courrier. Et donc dans l'enveloppe, il y aura tout ce qu'il faut, les bulletins, pour pouvoir voter par courrier. Et il faut le faire donc avant le 31. Dernier délai, le 31 janvier, c'est le dernier délai pour pouvoir voter.
Pour terminer, il y a donc les possibilités de se renseigner aussi sur vos propositions, du moins essentiellement sur l'élevage, ou alors il y a aussi d'autres secteurs sur lesquels vous vous lancez, enfin du moins vous défendez.
Non, sur toutes les productions, toutes les situations, les viticulteurs aussi notamment qui sont en crise, la Clairette c'est bien le cas, avec là il y a un plan d'arrachage qui est prévu par l'État, c'est un secteur en crise et qui est pareil, qui nécessite des mesures et de l'accompagnement à long terme, et donc on a des propositions, nous on est pour une vraie viticulture paysanne où il y a de la solidarité réelle entre tous les membres d'une coopérative, par exemple. On a des propositions sur tous les secteurs. On a des gens, et sur notre liste, voilà, j'ai pas abordé la question de la... On a une liste, ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, au quotidien, représentent la conf. Donc, dans le Diois, on a par exemple Clément Delage, qui est viticulteur à Espenel et qui représente la conf déjà auprès de la préfecture pour sur la question des baux ruraux, puisque nous on pousse par exemple à ce que soit revu, parce que les baux ruraux, c'est-à-dire le loyer de la terre pour les paysans, est légiféré, et nous on pousse, étant donné que la Clairette est en crise, pour que ce tarif, hein, cette norme, enfin sur le montant des baux ruraux qui est fixé par la préfecture, et ben soit abaissé, puisqu'il y a une période difficile. On a par exemple Clément Delage qui est présente, Clarisse Arnaud et également qui est viticultrice à Vercheny, qui est présente sur la liste, et d'autres hommes et femmes qui viennent de toutes les productions, des éleveurs, des maraîchers. Également, par exemple, en numéro 2, on va dire, sur la liste, il y a Mirella Lombardi, qui elle est maraîchère dans le Nord-Drôme. Il y a également Vincent Delma, qui est maraîcher et éleveur au vin à Salette, justement, plutôt dans le centre Drôme. Et il y a Rémi Léger, qui est... a fondé la ferme des Volonteux, dont je vous parlais tout à l'heure, à Beaumont-les-Valences. Et donc, comme ça, une vingtaine d'hommes et de femmes qui, déjà au quotidien, représentent la Confédération paysanne. Par exemple, je pense à Marie-Pascale Abel-Coindos, qui représente déjà la conf au niveau de la SAFER, au niveau du département. Et donc, ce sont tous des personnes engagées. Et n'hésitez pas à aller voter d'ici le 31 janvier.
David Millet, merci beaucoup d'être venu sur Air d'Ivoire pour nous parler de votre engagement avec la Confédération paysanne pour ces élections professionnelles à la Chambre d'agriculture.
Ben merci à vous de m'avoir reçu. Et le dernier mot sera peut-être vous donner notre slogan, c'est pour un monde agricole plus juste et plus heureux, et pour des campagnes vivantes, votez Confédération paysanne. Merci.
Bonne soirée.
J'entendrai tout. n'aime pas ses coups. Oh, but justement.